Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet et aujourd'hui, mercredi 15 octobre, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous dire comment adopter une attitude zen, faire une autre lecture des contes d'enfants, constater comment elle parle de lui depuis 25 ans, faire le portrait de quelques top modèles québécois que nous avons vus dans les pages du Elle Québec au cours de ces 25 dernières années. Nous verrons également comment notre vie nous fait grossir, comment choisir son gym et comment les mamans peuvent s'entraîner. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Adopter la zen attitude. C'est un texte de Chantal Tellier dans le Véro Magazine de l'automne 2014. Quand on se lance dans une quête de mieux-être, on rencontre souvent des zélés qui, persuadés d'avoir trouvé la panacée, veulent absolument nous convaincre, de force s'il le faut, que ce qui a marché pour eux marchera obligatoirement pour nous aussi. Ils nous disent ainsi qu'il faut faire du yoga, qu'il faut méditer une heure par jour, qu'il faut couper son alimentation, le sucre, le blé, les produits laitiers, etc. Faute de quoi, ils nous accusent de crimes, de lèse-santé. Nicole Bordelot n'est pas de cela. La preuve, son dernier livre s'intitule « Zénitude et double expresso ». Réflexion et brin de sagesse pour survivre au tumulte du moment. Oui, expresso, comme dans Café Expresso. Le smoothie vert peut aller se faire boire ailleurs. Avec elle, pas de leçon de morale, pas d'impératif. Elle est l'anti-gourou par excellence. Celle qui nous ressemble, celle qui nous comprend, nous, pauvres mortels, qui tentons péniblement d'instiller un peu de zénitude dans nos vies hyper bouquées. Elle arrive au resto pile à l'heure, élégante, rayonnante. Première constatation, elle ne lévite pas. Ouf, me voilà rassurée. Elle se présente, s'assoit et commande un thé vert. Devant mon air dépité, elle précise en riant. J'ai déjà pris 3 doubles expresso ce matin, je me limite quand même un peu. 3 doubles expresso. Deuxième constatation, on la veut comme amie. Et on n'est pas les seuls à la vouloir comme amie. Depuis la sortie de « Vivre, c'est guérir », en 2012, Nicole Bordelot a conquis le cœur d'un large public. Dans cette autobiographie, elle raconte qui elle est, sans faux semblant, sans faux fuyant. Le diagnostic d'hépatite C qu'elle a reçu en 1996 et qui l'a amenée à réviser son passé. Son parcours de l'Abitibi à Montréal, où elle a évolué dans le milieu de la mode en tant qu'organisatrice d'événements et chroniqueuse, en passant par Princeton au Massachusetts, la dépendance à la cocaïne, la lutte pour en sortir, la découverte du yoga et de ses bienfaits. Son public, composé autant de rockers purs et durs et d'anciens toxicomanes que d'hommes d'affaires et d'étudiantes au cégep, la suit fidèlement sur Facebook, où elle prodigue des conseils d'une humilité et d'une simplicité désarmantes. Par exemple, « Parfois, si tout ce que vous pouvez faire est de respirer par le nez, c'est suffisant. » Juste pour ça, on a envie de lui dire merci. Quand de soi-disant gourous se servent de pratiques de mieux-être pour culpabiliser les gens ou les stresser, ça me révolte, explique-t-elle. Donnons-leur une maison en banlieue, un trajet à faire dans le trafic matin et soir, des enfants à élever, un parent malade dont ils doivent s'occuper et on verra s'ils sont toujours aussi zen. On l'aura compris, le prêchi-prêcha, très peu pour elle. C'est pourquoi on aime tant son dernier ouvrage. Il aborde des notions comme la respiration, la méditation, le lâcher-prise et le moment présent de façon claire et limpide. Nicole Bordelot le voit comme un coffre d'outils. Chaque personne peut y puiser ce dont elle a besoin, souligner des passages ou prendre des notes dans la marge. Je voulais que ce livre soit beau et profond, mais je voulais aussi qu'il soit utile. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire mourir des arbres pour ajouter un bouquin dans les librairies. Selon la maître en yoga, la clé du changement pour une vie plus sereine se trouve en chacun de nous, plus précisément dans notre esprit. Or, si on sait faire marcher de nombreux gadgets électroniques, on n'a peut-être jamais vraiment compris comment fonctionne l'esprit humain. C'est ce que j'ai voulu faire avec Zénitude et Double Expresso. Quand on commence à comprendre le fonctionnement de notre esprit, on a moins tendance à se juger, parce qu'on réalise qu'on est conditionné par mille et une choses. On devient moins dur envers soi et, inévitablement, on est moins porté à juger les autres. Cultiver un esprit zen est le travail de toute une vie. Si une journée, on ne s'adonne pas à la méditation ou au yoga, il faut faire la paix avec ça. On se reprendra le lendemain. C'est l'addition de petits gestes qui compte, soutient-elle. C'est pourquoi les exercices proposés s'intègrent sans peine dans le quotidien. En outre, l'ouvrage est parsemé d'histoires et d'anecdotes dans lesquelles il est facile de se reconnaître. Et surtout, il offre une vision accessible de la zénitude à l'image de l'auteur. Si le yoga ou la méditation font partie de votre liste de « choses à faire », n'en faites pas, insiste Nicole Bordelot. Allez plutôt marcher, offrez-vous un verre de vin, sortez avec des amis, bref, faites-vous plaisir. Si vous êtes pleinement présent à ce que vous faites, il s'agit d'un moment de zénitude. Ouf, de quoi se réconcilier avec cette notion, non ? Alors, quelques trucs pour faire face à la vie avec plus de sérénité, d'après Nicole Bordelot, toujours. On est enseveli sous le travail. Lorsqu'on passe la journée au bureau à jongler avec les courriels urgents auxquels il faut répondre, les dossiers qu'il faut boucler, les échéances qu'il faut respecter, cet exercice tout simple est un must. Il s'agit de contempler le ciel 30 secondes par la fenêtre en respirant calmement. Cela suffit souvent à apaiser notre esprit survolté. On est incapable de décrocher. Dans la mesure du possible, ce qui se passe au bureau devrait rester au bureau. Plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, si on songe au travail pendant qu'on est sous la douche ou au lit, c'est comme si notre patron et nos collègues étaient avec nous. Pensons-y la prochaine fois que notre esprit sera préoccupé par le boulot. En voyant les choses sous cet angle, il est plus facile de revenir au moment présent, n'est-ce pas ? Il était une fois. Les contes de fées ne sont pas pour les enfants. Ils sont destinés aux adultes qui ont du mal à grandir. C'est un texte par Ève Désiel et c'est dans le Véro Magazine de l'automne 2014. J'ai 9 ans. Tous les contes de fées me troublent ou me font peur. Le seul qui m'est supportable est Cendrillon. Sans doute parce que la méchanceté dont la jeune fille est victime finit par finir. Son prince charmant ayant la présence d'esprit de l'amener vivre loin de la jalousie des trois folles finies. J'apprécie pas non plus le petit chaperon rouge. Évidemment, je crains le grand méchant loup. Mais je suis davantage effrayée par l'inconscience d'une mère qui envoie son enfant seul dans un bois. Pourquoi jeter sa fillette dans la gueule d'un prédateur ? Pourquoi s'assurer que l'innocente ne passera pas inaperçu en la revêtant de pied en cap d'un vêtement rouge sang. Pourquoi ne pas l'accompagner ? Aucun adulte ne répond à mes questions. Mais le conte le plus terrorisant, celui qui me chavire à tout coup, c'est le petit pousset. Un rappel pour ceux et celles qui ignorent l'épopée. Il était une fois une famille très pauvre, composée de 7 enfants, dont on ne sait pas grand-chose, issus de parents totalement irresponsables. N'ayant plus rien à manger, incapables de regarder les corps émaciés de leur progéniture, le père et la mère décident en secret de perdre leur petit en forêt. Mais le plus jeune des enfants, le plus futé et sans doute le plus indiscret, a tout entendu. La veille de la funeste promenade, il remplit ses poches de cailloux dans le but de les laisser tomber, un à un, derrière lui, pour retracer le chemin de sa maison. « Je n'en reviens pas. Je suis bouche bée. Ça existe ? Des parents qui abandonnent des enfants en pleine forêt sans leur offrir d'abord un passage chez les scouts ? Ont-ils pensé les laisser sur le parvis d'une église, dans la cour d'un orphelinat ou sur une route passante ? Ont-ils réalisé que leur enfant aurait alors la chance d'être secouru par des citoyens compatissants ? Pourquoi ne pas les confier à des membres éloignés de la famille ? Mais le père et la mère du petit pousset ne sont pas des sans-cœur. Oh que non ! L'auteur écrit ceci. C'est le cœur brisé que les parents rentrèrent seuls ce soir-là, l'âme rongée par le remords. Là encore, j'ai 9 ans et je suis toujours sans mots. S'ils aiment tant leurs jeunes enfants, comment peuvent-ils les laisser à eux-mêmes ? Si les parents du petit pousset éprouvent tant de regrets, pourquoi ne courent-ils pas à leur recherche ? Vous vous souvenez de la suite ? La Providence leur donne la chance inouïe de réparer l'erreur de leur vie. Grâce aux cailloux, le petit pousset et sa fratrie rentrent sains et saufs au bercail. Les parents sont fous de joie et tout le monde dort bien ce soir-là. L'histoire aurait dû se terminer là. Mais quelques pages plus loin, le cauchemar recommence. Cette fois-ci, le petit pousset n'a pas eu le temps d'amasser ses précieux cailloux. Il sacrifie son maigre morceau de pain. En route vers nulle part, le cœur en miettes, le pouce et l'index réunis derrière son dos, il laisse tomber de minuscules fragments de mie sèche. Derrière lui, à son insu, deux oiseaux, deux vraies têtes de linotte, picorent tout le pain avec l'énergie du désespoir. Les parents se poussent. Le petit pousset ne retrouve plus son chemin, pas tout de suite du moins. Il devra affronter un ogre, voler des bottes de 7 lieues, déposer une fortune sur le tablier de sa mère avant de trouver enfin la paix d'esprit. À l'époque, j'en voulais à mort à ses parents, mais avec le temps, c'est l'attitude du fils qui me trouble. Pourquoi vouloir à tout prix retourner vers des êtres qui nous blessent à répétition ? La forêt est symbolique, on peut se sentir abandonné dans une maison pleine. Tous les enfants du monde croient que c'est leur faute si leurs parents sont malheureux. Alors, ils cherchent éternellement à se racheter. C'est ce que le petit pousset fait. Sans petit, ses parents survivent. En mettant des enfants au monde, ils crèvent de faim. Le message est clair. Nous vous aimons, mais malheureusement, vous nous affamez. Alors, dehors. En partageant sa fortune avec ses parents, le héros s'assure de ne plus jamais être trahi. C'est si complexe, les contes de fées. Le drame du petit pousset est profond, profond comme la vie. Moi, sa lointaine descendante, je cherche aussi ma maison. Je retourne vers des êtres et je me remets parfois dans des situations qui me blessent à répétition dans l'impossible but de réparer la relation. Tout pour ne pas rompre. Du moins, pas comme ça. Pas tout de suite, pas avant d'avoir entendu ou murmuré « pardon ». J'ai mis 5 décennies à comprendre qui je suis. J'apprends enfin à faire des deuils, à envisager l'avenir. Demain, je le sens, je bénirai les oiseaux qui nous soulagent de ces miettes d'amour, de ces retours en arrière qui ne mènent nulle part. Demain, j'abandonnerai ma belle vieille blessure d'abandon. À trop chérir ses plaies, on ne guérit jamais. Je marcherai heureuse, libre, vers la nuit des temps. Demain, je ne serai plus une enfant, j'aurai la force, la foi. Je ne partirai plus en courant quand on me chuchotera ces mots si bouleversants. Je suis là pour toi. Moi, l'héritière du petit pousset, je sortirai enfin de mes bottes les derniers cailloux de mon enfance et je ferai en riant des ricochets sur la rivière dansante.
Non, maman, je n'ai pas le temps de danser. J'ai encore tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps. Il y a plus urgent sur terre. Cette ville est trop tranquille. La vie s'écoule lentement. Je sais où je vais depuis si longtemps. J'irai toujours, toujours de l'avant. J'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Si je rencontre des montagnes, je les soulève. Fais-le avec amour. Alors chaque matin je me mets au travail et je vais gagner cette bataille. C'est bientôt le grand jour, c'est à moi.
C'était Rose au bout du rêve. Lui et elle, c'est un texte par Stéphane Dompierre dans le L Québec d'octobre 2014. Le L Québec qui fête ses 25 ans. Voilà. Au cours de ces 25 dernières années, les hommes ont été scrutés, analysés, interrogés et mis à nu dans le L Québec. C'est normal, on voulait savoir ce qu'ils pensaient vraiment de la drague, du sexe, du couple, de la paternité et de nous. Aujourd'hui, Stéphane Dompierre fait un retour en arrière et retrace la fabuleuse histoire du mâle dans nos pages. Un gars, c'est un gars. Pour mieux nous comprendre, vous avez élaboré un système de classification complexe. Au départ, il n'y avait que le macho. Mais avec la montée du féminisme est arrivé l'homme rose. À partir des années 1990, ça s'est compliqué avec le métrosexuel, l'ubersexuel, le novo casual. Vous vous êtes mise à inventer une nouvelle race d'hommes chaque fois qu'un de nous s'achetait une crème anti-rides ou s'épilait le dos. Un gastrosexuel, vraiment ? Un nom aussi dégoûtant, rien que pour mettre dans une case les hommes âgés de 25 à 44 ans qui cuisinent. Pour être honnête, il y a longtemps que nous avons cessé d'essayer de saisir les nuances et les subtilités de tout ça. Pour nous, une femme est une femme, point. Et c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Femme de rêve. Parce que vous êtes curieux de savoir ce qui nous plaît vraiment, Elle Québec publiait en 1991 un portrait robot de la femme idéale selon les Québécois. D'après les résultats de sondage qu'on y présente, 43 des hommes rechercheraient d'abord chez vous l'intelligence et 37% l'autonomie. Seulement 5% accorderaient la priorité à la beauté. Et évidemment, il n'y a pas que l'apparence qui nous intéresse. Mais reste qu'aucun de nous ne drague une fille parce qu'elle a l'air intelligente et autonome et qu'elle est belle à 5%. Drague 101. En 1999, on annonce que, apeuré par ces femmes fortes qui sont devenues ses égales, l'homme a renoncé à la drague. Jamais il n'osera, écrit la journaliste française Laurence Pivot. Car ici, la séduction n'est pas de mise. Draguer pour draguer, juste pour le petit frisson et le plaisir de se rassurer sur son pouvoir de séduction, semble aussi déplacé que de manger ses frites avec du sirop d'érable. Quelques mois plus tôt, dans l'article « Quand les hommes parlent de sexe », chacun des gars interrogés avait pourtant sa méthode de drague bien particulière. Martin, ésotérique, « Je la regarde et contemple son âme jusqu'à ce que je lui glisse ce que j'ai remarqué d'unique chez elle. » Tom, sûr de lui, « Je me laisse porter par les courants, donnant libre cours à ma spontanéité, un peu comme un donjon, mais infaillible. » Bon, avouons-le, contrairement à Tom, le Québécois moyen n'est pas un grand conquérant. Mais nous n'avons pas abandonné la drague pour autant. Nous la pratiquons de manière moins frontale, sans doute, plus en nuance. Peut-être sommes-nous naïfs, mais nous ne voyons aucun avantage à mentir ou à nous vanter pour nous mettre en valeur. Ça n'exige qu'un peu d'adaptation de votre part. La femme qui se la joue froide et désintéressée ne nous attire pas autant que vous le croyez. Nous préférons aller vers celles qui nous sont engageantes et réceptives. Les papas modèles. Une chose a fait l'unanimité au cours des années. Le père a évolué et pour le mieux. Même dans un article au titre aussi alarmiste que « Au secours, je suis papa », les jeunes hommes interrogés disent vivre leur paternité pleinement, s'impliquer à être à mille lieues des pères pourvoyeurs, absents ou irresponsables. Ces modèles d'une époque révolue. Un de ces pères résume bien ce changement. Être père, c'est la plus belle manière de devenir adulte. Un peu par obligation et beaucoup par goût. Toutes les femmes se réjouissent de ce père moderne qui sait concilier le travail et la famille. C'est rassurant d'apprendre que nous suscitons aussi votre intérêt lorsque nous nous portons bien. C'est beau, un homme. Au cours des années, on a vu apparaître dans les pages de Elle Québec des publicités spécialement conçues pour nous. On y voit des mannequins dénudés, forts en muscles et faibles en gras. Du coup, nous n'exhibons plus nos poignées d'amour avec autant d'insouciance qu'avant. Déjà en 2001, Marie-France Bazot le constatait. Le gars a découvert les petits pots de crème dans un article trop beau pour être vrai. Nous avons ri de vos onguents étranges qui semblaient ne servir à rien et nous voilà aujourd'hui devant des étalages de produits similaires qui nous sont destinés. Raffermisseurs de ventre, soins anti-âge, crème hydratante. Nous savons maintenant ce qu'est la zone T. Nous avons découvert l'exfoliation et l'épilation et nous voulons rester beaux longtemps. Peut-être que le Viagra prolonge notre vie sexuelle, mais encore faut-il être désirable pour en avoir une. Et enfin, l'homme rapaillé. En 2004, après nous avoir disséqué et observé à la loupe, après avoir recensé nos moindres tics et défauts, vous nous rassurez avec un article qui arrive à point nommé. Déclaration d'amour. On les aime, nos Québécois. Ouf ! Voilà une nouvelle réjouissante. Nous le savions, évidemment, mais nous le faire dire est beaucoup, est toujours apprécié. Nous sommes doux sans être mous, nous accomplissons notre part de tâches domestiques, nous sommes moins machos que les Français et moins coincés que les Américains. Il y a là quelques généralisations, bien sûr, mais vous savez reconnaître nos qualités. L'article nous apprend même que sur la question de l'engagement, selon un sondage international, nous nous démarquons de la tendance mondiale masculine. Et oui, nous n'avons pas peur de l'engagement, même si nous draguons peu et si nous rompons n'importe comment. Mais ne craignez rien, nous allons nous trouver d'autres défauts et plonger dans de nouvelles crises pour continuer de susciter votre curiosité. Thank you. Donc, je vais vous redonner quelques trucs pour faire face à la vie avec plus de sérénité, des petits trucs qui sont tirés de l'article « Adopter l'attitude zen ». On est coincé dans le trafic. Selon Nicole Bordelot, les trajets entre la maison et le travail sont des moments précieux pour recharger nos batteries. On peut écouter une musique qui nous apaise, en profiter pour respirer et prolonger notre souffle. On inspire calmement par le nez en comptant jusqu'à 3. On expire lentement par le nez en comptant jusqu'à 6. On répète le tout 5 fois. On inspire ensuite en comptant jusqu'à 4 et on expire en comptant jusqu'à 8. On répète 5 fois. On est sur le point de craquer. L'être humain est traversé par une foule d'émotions. Si on les refoule sans cesse en tentant à tout prix de faire preuve de positivisme, elles reviendront à la charge. Il y a des moments où on est réellement fâché ou triste. On se donne alors le droit de se plaindre, de rouspéter, et même de pousser quelques jurons. Ça soulage. On se limite toutefois à une demi-heure par jour, pas une demi-journée. Et on passe ensuite à autre chose. On est envahi par des pensées récurrentes. L'esprit est parfois comme un chihuahua excité, parfois comme un pitbull, explique Nicole Bordelot. Il faut lui donner un os à gruger. Et pour moi, un mantra, c'est un peu ça. Quand des pensées angoissantes nous envahissent, on répète silencieusement le mot « ici » en inspirant et le mot « maintenant » en expirant. On peut pratiquer cet exercice en marchant, pendant une réunion, au feu rouge. Les occasions sont infinies. Plus on persévère, plus le mental se calme et une certaine paix s'installe. Votre vie vous fait-elle grossir? On prend du poids si on mange trop, si on ne bouge pas assez. Voici des facteurs qui nous font gagner des kilos. C'est un texte par Julie Leduc dans le coup de pouce d'octobre 2014. Tout d'abord, vivre en banlieue. Les gens qui vivent en banlieue utilisent moins le transport actif comme la marche et le vélo que les citoyens des villes, note Jean-Philippe Chaput, professeur et chercheur en obésité à l'Université d'Ottawa. Le règne de l'automobile réduit le niveau d'activité quotidienne des gens et peut favoriser la prise de poids. Le conseil de M. Chaput aux banlieusards, sortez dehors le plus souvent possible, avant ou après le travail. Lorsqu'on est dehors, on est spontanément plus actif. On y va pour marcher, faire un tour de vélo, jouer avec les enfants ou travailler sur le terrain. Avoir un conjoint et des amis qui font de l'embonpoint. Une étude publiée en 2007 dans le New England Journal of Medicine sur l'influence du réseau social a clairement démontré que notre entourage peut avoir un impact sur notre prise de poids et nos habitudes de vie. L'étude a montré que les gens obèses ont tendance à se tenir ensemble. La bonne nouvelle, c'est que l'inverse est vrai. Les comportements santé sont aussi contagieux. On peut donc décider d'adopter un mode de vie plus sain et influencer positivement nos proches. Manquer de sommeil. Le manque de sommeil mène au gain de poids à long terme. Les gens qui passent beaucoup de temps éveillés mangent plus, tout simplement parce qu'ils ont davantage l'occasion de le faire. Et souvent, si on dort peu, on est plus fatigué et moins disposé à aller faire de l'exercice, un autre facteur de risque d'embonpoint. De bonnes habitudes peuvent nous aider à retrouver un bon sommeil. On adopte une routine, on essaie de se coucher à la même heure chaque soir, on évite la caféine en soirée, on fait de l'exercice régulièrement, mais pas immédiatement avant de se coucher. Et on éteint nos écrans, qui nous stimulent et nuisent au sommeil, une heure avant de nous mettre au lit. Avoir un emploi sédentaire. La sédentarité favorise l'embonpoint Et des études récentes montrent qu'indépendamment de notre pratique d'activité physique quotidienne, rester assis de longues heures a des effets néfastes sur notre santé, mentionne Jean-Philippe Chaput. Ses conseils ? On essaie de ne pas dépasser plus de 2 heures consécutives en position assise. On voit si on peut alterner des tâches qu'on fait assises avec d'autres, faisables debout. On boit beaucoup d'eau pour se lever plus souvent afin d'aller au petit coin. On sort marcher le midi et on se fait des réunions actives. Plutôt se rencontrer dans un bureau assis, on fait nos réunions en marchant. Vivre beaucoup de stress. Le stress chronique tend à nous faire engraisser. Une réaction physiologique explique cela, indique Francis Gilbert. En situation de stress, notre corps tombe en mode survie. Il libère une bonne quantité de glycogène pour donner de l'énergie à nos muscles afin qu'on fuit ou qu'on combatte l'ennemi. Mais comme finalement notre stress psychologique ne nous amène pas à bouger ni à dépenser de l'énergie, le corps transforme le glycogène non utilisé en graisse. À la longue, on finit par avoir un surplus de poids. De plus, la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, favorise une accumulation de gras abdominal, un gras particulièrement néfaste pour la santé puisqu'il accentue notre risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'obésité. Faire de l'exercice est un bon moyen de gérer son stress, poursuit M. Gilbert. Prendre de bonnes respirations abdominales réduit aussi le stress. Utiliser de la vaisselle de grand format. Se servir dans de grandes assiettes ou de gros verres nous incite à consommer plus qu'on devrait, confirme Amélie Sabourin, diététiste nutritionniste au Centre de santé et de consultation psychologique de l'Université de Montréal. Voir une portion raisonnable dans une grande assiette crée l'illusion qu'elle est petite. Le recours à des formats plus standards va nous aider à manger des portions qui correspondent mieux à nos besoins. Il faut aussi faire un travail pour être en pleine conscience de soi-même, rappelle-t-elle. Prendre par exemple de bonnes respirations avant le repas nous recentre sur nos besoins et sur notre faim. Cela nous aide à prendre une décision plus éclairée sur la quantité de nourriture qu'on va manger. Parce que quand on n'a plus faim, on n'est jamais obligé de finir notre assiette petite ou grande. Ne pas planifier ses repas. Quand on ne planifie pas ses repas, on se retrouve plus souvent au restaurant, note Amélie Sabourin, avec le risque que cela comporte manger plus régulièrement de la malbouffe, une alimentation riche en gras et en sucre qui favorise l'embonpoint. Cuisiner à la maison améliore la qualité nutritive de nos plats et aide à garder la ligne. Être à l'écoute de nos besoins et de nos signaux de la faim, c'est la clé pour avoir une bonne gestion de notre poids. Ne pas avoir facilement accès à des aliments frais. Quand on a faim, on va manger ce qui est à portée de main, et plus souvent les chips et les biscuits que les crudités, selon M. Chaput. Quand on vit dans un quartier pas bien pourvu en épicerie, on s'organise pour faire le plein d'aliments frais au moins une fois par semaine. Et on peut privilégier les fruits, les légumes, la viande et le poisson congelé, suggère Amélie Sabourin. Dans notre frigo, on s'organise pour mettre les fruits et les légumes en vedette, pour avoir le goût d'en manger. Manger à des heures irrégulières. Jean-Philippe Chaput ajoute que la prise des repas à des heures régulières favorise un meilleur maintien de poids. Manger 3 repas par jour et prendre 2 collations quotidiennes permet au corps d'avoir de l'énergie en continu. Cela évite qu'il ne se mette à stocker des réserves d'énergie en gras parce qu'on l'a privé de nourriture durant de longues heures. L'endroit où l'on mange n'est pas à négliger non plus. Pour s'aider, on ferme les écrans, on prend le temps de s'asseoir, de se mettre un apron et de se concentrer sur ce qu'on fait. Et enfin, boire régulièrement des boissons sucrées. Les boissons sucrées sont directement associées à une hausse des risques de souffrir de surpoids et d'obésité. On recommande de boire de l'eau pour étancher sa soif et de limiter le plus possible sa consommation de boissons sucrées, dit Amélie Sabourin. On ne parle pas ici de boissons gazeuses seulement, mais aussi de jus de fruits. Il y a autant de sucre dans une tasse de jus d'orange que dans une tasse de Coke. Thank you. sublimes icônes. 5 top made in Québec. C'est dans le L Québec d'octobre 2014, pardon, et c'est un texte par Yves Scheffner. Elles, elles ont parcouru des milliers de kilomètres de passerelles, que ce soit à Paris, à Milan ou à New York. Rencontre avec ces mannequins bien de chez nous, dont le visage est connu dans le monde entier. Ça fait partie aussi du numéro spécial anniversaire des 25 ans du L Québec. Chantal Nadeau, la belle, la beauté généreuse. Chantal figurait dans les tout premiers numéros de L Québec au début des années 1990. À l'époque, elle passait son temps dans les avions entre Paris, New York et Tokyo. Je vivais dans mes valises et je me promenais partout. 25 ans plus tard, l'élégante blonde est toujours aussi enthousiaste à l'idée de se retrouver dans nos pages. D'autant plus qu'elle y pose en compagnie d'autres tops qu'elle connaît fort bien. Depuis la fondation de sa propre agence de placement de mannequins en 2003, Chantal Nadeau Model Placement, elle a conseillé des dizaines de jeunes femmes, comme Sophie Touchet, sa jeune protégée qu'elle a découverte et lancée, ou Pamela Bernier, qu'elle a récemment hébergée lors de ses passages à Toronto. Participer à une séance photo aux côtés de ses filles qu'elle a guidées l'émeut. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui devant la caméra de Bryan Adams. Ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas participé à un reportage mode, alors j'ai l'impression de vivre ça pour la première fois. Et preuve qu'elle a toujours le métier dans le sang, Chantal se dit déjà prête à poser pour la couverture de notre 50e anniversaire. J'en suis capable, mais peut-être pas toute nue. Eve Salvaille, l'icône rebelle. Eve affichait un tatouage de dragon bien avant The Girl with the Dragon Tattoo. Encore aujourd'hui, elle est la mannequin québécoise la plus connue du monde. De Matane, où elle est née, à Tokyo, où elle s'est fait tatouer le crâne, tout le monde se souvient d'elle, même ceux que la mode indiffère. La muse de Jean-Paul Gaultier a fait partie en 1994 de la distribution de prêt-à-porter du célèbre réalisateur américain Robert Altman, en compagnie de Carla Bruni, Naomi Campbell et Linda Evangelista. À cette époque, la vie d'Eve Salvaille était un tourbillon permanent. Je travaillais tellement à ce moment-là que lorsque j'y repense, les contrats et les expériences se confondent dans ma tête, lance Eve, qui est maintenant une DJ de renommée internationale. N'empêche que sa première couverture, pour le L Québec, lui a laissé des souvenirs indélébiles. Ma mère a laminé cette photo et l'a accrochée dans ma chambre chez elle. Pendant des années, à chacune de mes visites, c'était la première chose que je voyais à mon réveil. 20 ans plus tard, sa beauté androgyne irradie toujours autant sur le cliché de notre numéro anniversaire. Une autre photo à laminer, peut-être. Jessiane Gravel, la sensualité épanouie. À 26 ans, Jessiane a pratiquement le même âge que le magazine. Elle y a d'ailleurs passé une partie de sa vie. Depuis son adolescence, elle promène sa silhouette gracieuse et son visage d'elfe d'un reportage à l'autre dans nos pages. Même sa grossesse y a été célébrée en 2013, à l'occasion d'une séance photo mémorable où elle posait entre les bras de son futur mari, le mannequin brésilien Francisco Lachowski, peu de temps avant la naissance de leur fils Milo. Aujourd'hui, la mannequin, qui a participé à des campagnes publicitaires pour Victoria's Secret, H&M et Armani, habite à Brooklyn, jonglant entre carrière et vie familiale. Elle ne cache d'ailleurs pas sa satisfaction d'être parvenue à cette étape charnière de son existence. L'an dernier, j'ai vécu ma plus belle année à ce jour. Je me suis mariée et mon fils a célébré son premier anniversaire. Bref, je me suis posée. Ce qui a changé pour elle ? Avant, je vivais dans l'instant présent. J'étais si jeune quand j'ai commencé dans ce métier que je ne savais pas de quoi demain serait fait. Désormais, je prépare mon avenir. Je planifie tout. Ce qui va se passer la semaine prochaine ou même dans un an. Pamela Bernier, le sublime caméléon. À 14 ans, une toute jeune Pamela posait pour la première fois en tant que mannequin sur la couverture de notre publication sœur, le L Québec Girl. Au fil des ans, la collaboration entre elle et nous ne s'est jamais tarie. Elle s'est glissée tantôt dans la peau d'une héroïne hitchcockienne à la blondeur glacée, tantôt dans celle d'une rockstar à la Joan Jett. Cette sidérante faculté de métamorphose lui a d'ailleurs valu d'être remarquée à Paris, à Milan et à New York, où elle participe chaque saison à une nuée de défilés. Sans compter les campagnes de pub, notamment pour Annabelle, Vichy et L'Oréal Paris, qui ont fait d'elle leur égérie. Aujourd'hui installée à New York, Pamela s'imagine vivre encore dans la grosse pomme quand elle fêtera son propre 25e anniversaire en 2017. À ses yeux, 25 ans, c'est l'âge idéal pour voyager, explorer, vivre à fond. Être libre, quoi. Vieillir ne me fait pas peur. J'aime l'idée d'acquérir de l'expérience et d'exprimer le plus de choses possible. C'est exactement ce qu'on lui souhaite. Et enfin, Sophie Touché. La révélation. À tout juste 20 ans, Sophie ne cache pas sa joie de se retrouver à la une de Elle Québec en compagnie de son agente et mentor, Chantal Nadeau. « C'est à elle que je dois tout ce qui m'arrive en ce moment », confie la jeune femme. « Pour moi, Chantal est comme une seconde maman, une maman fashion. Je lui écris tous les jours. » Sophie parle vite, très vite même, à un rythme qui n'est pas sans rappeler la vitesse à laquelle sa carrière a décollé. Cette illustre inconnue, il y a quelques mois encore, a participé à pas moins de 43 défilés, dont ceux de Dolce & Gabbana et de Chanel, durant sa toute première saison. Où se voit-elle dans 5 ans? Elle espère encore être encore mannequin, mais ne s'inquiète guère. J'ai 1000 autres projets en tête, par exemple celui d'aller à l'université. Si je suis toujours mannequin à 25 ans, tant mieux, mais si ma carrière s'arrête demain, je ferai autre chose, tout simplement. En attendant, Sophie profite de chaque instant et mord dans la vie à belles dents, comme toutes les filles de 20 ans.
Belle bénévole, bénie du ciel, moi je raffole de toi ma bénévole. Tu m'as offert ton amour sans rien me demander en retour, et tu tiens parole. Oh 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 oh. Tu as pris pitié de ma cause quand il n'y avait personne pour m'aimer. Tu dédies à moi presque sans pause. J'aurais jamais belle bénévole, beauté divine, il y a une auréole sur ta tête, ma bénévole. Ça me demandait une scène, comme une bonne samaritaine, tu me cajoles. Oh 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 oh, tu sais que ton qu'on se colle, je n'aurai aucun bémol. Tu m'aimes généreusement, même si j'ai pas beaucoup d'argent, tu dois être folle. Comme je suis fou de toi, tu as pris pitié de ma cause. Quand j'étais en manque d'affection, l'amour est plus pur quand il nous arrive
Eh bien, c'était la chanson « Belle bénévole » par Damien Robitaille. « Bien choisir son gym », c'est par José Lavigueur dans le Moi et compagnie de septembre 2014. Le temps est peut-être venu pour vous de passer la grande porte. Vous savez, celle qui peut parfois sembler si impressionnante à l'entrée d'un centre de conditionnement physique. En fait, derrière cette porte circulent des gens comme vous et moi, qui ont un désir commun, maintenir ou améliorer leurs conditions physiques. Zoom sur quelques points à observer au moment de magasiner votre gym. Premièrement, visitez l'endroit au moment où vous prévoyez de faire vos entraînements. Si vous visitez un centre en avant-midi et que vous comptez vous entraîner les lundis soirs, à l'heure de pointe, vous n'aurez pas les bonnes impressions. Observez la disposition de l'équipement et la disponibilité des appareils qui vous plaisent. Est-ce que les autres membres vous inspirent? Est-ce que les employés semblent disponibles et agréables? L'ambiance compte aussi. Vérifiez la sécurité. Vous devriez vous sentir en sécurité en laissant vos effets personnels dans les casiers barrés, mais aussi à l'entrée et à la sortie des lieux. Inspectez la propreté des lieux. Remarquez la propreté des équipements et leur entretien. Si plusieurs d'entre eux sont hors d'usage ou si la poussière s'accumule dans leurs engrenages, c'est un « pensez-y bien ». Et surtout, inspectez le vestiaire et prenez le temps qu'il faut. Faites un essai. Après avoir visité le centre, faites un ou deux essais. Si cela vous demande trop de temps ou si vous êtes mal à l'aise, prenez part à un cours ou demandez à un instructeur de pouvoir observer un de ces cours. C'est une bonne façon d'en avoir un aperçu. Pendant que vous êtes sur place, profitez-en pour questionner les membres du club. Leur opinion aura une grande valeur. Trouvez les frais cachés. Tous les centres offrent des extras qui occasionnent des frais supplémentaires comme un entraîneur privé, des soins variés, des cours de groupes spéciaux, une évaluation de la condition physique ou des sports de raquettes. Tous ces ajouts peuvent rendre vos visites encore plus agréables, mais vous devez les prévoir à votre budget. Tentez de payer à l'avance pour certains services ou encore acheter des forfaits. Cherchez les tableaux d'affichage et les certifications. Les informations de base, comme l'horaire, les types de cours en groupe et les niveaux de difficulté, doivent être inscrits clairement et quotidiennement. Aussi, informez-vous des critères de sélection des entraîneurs. Pardon. Ont-ils une formation continue? Sont-ils formés à la réanimation cardio-respiratoire et aux premiers soins? Comprenez bien votre abonnement. Quelle est la durée du contrat signé? Sera-t-il renouvelé automatiquement? Par ailleurs, vous devriez pouvoir interrompre votre abonnement sans toutefois l'annuler pour des raisons médicales ou pour des absences prolongées. Sinon, il vaut peut-être mieux considérer un abonnement à court terme. Informez-vous aussi sur les politiques de remboursement et d'annulation. Et enfin, choisissez bien l'emplacement. Parmi les critères de motivation les plus importants, l'emplacement du gym est prioritaire. Analysez le parcours que vous aurez à faire pour vous y rendre. Si vous devez faire un long détour, oubliez ça, vous ne serez pas assidu. Alors, il y a un autre article également sur l'entraînement, mais là, ce sont les mamans à l'entraînement. Entre le boulot, les allers-retours aux pratiques de soccer du plus vieux, le panier de linge sale qui déborde et l'otite du petit dernier, les mamans d'aujourd'hui auraient besoin de 10 heures de plus chaque jour pour accomplir toutes leurs tâches. Résultat, l'entraînement écope. Or, il est possible de conjuguer obligations familiales et activités physiques. Voici les preuves. 5 suggestions pour vous aider à trouver le bon moment et vous inspirer à bouger. Premièrement, faire une marche après le repas du soir. Plutôt que de vous affaler sur le sofa devant la télé, profitez de ce moment pour faire du cardio en allant marcher avec une amie ou votre conjoint. Le bonheur de la marche est qu'on y prend goût très rapidement. vous en voudrez toujours plus. Se lever 30 minutes plus tôt. Deux fois par semaine, réglez votre réveil matin 30 minutes plus tôt. Vous pourrez occuper ce moment juste pour vous en faisant un DVD d'exercice, en vous entraînant avec des appareils à la maison ou en allant marcher. Vous déborderez d'énergie pour la journée. Troisièmement, portez une tenue sportive à l'extérieur du bureau. Vous serez alors toujours prête à saisir toutes les opportunités de bouger. Aller jouer au parc avec les enfants, marcher avec une amie, faire l'épicerie au pas de course. Toutes les occasions sont bonnes. Quatrièmement, s'entraîner avec une amie. Il n'y a rien de plus motivant que de s'entraîner avec un complice. Il y a aussi la camaraderie des cours en groupe. On oublie la compétition et on focalise sur le plaisir de se défouler entre amis, rire un peu et prendre soin de soi. Jardiner ou concevoir un aménagement paysager. Ça, c'est le dernier point. Le simple fait de pousser, tirer, transporter, planter, déterrer, arracher, déplacer, rateler, déneiger ou vous pencher vous permet d'améliorer votre endurance musculaire. Qui a dit que jardiner était ennuyant? Une petite brève maintenant. Arrête, tu me gênes. Accepter un compliment tient parfois du défi. Cette robe, elle est si vieille, ou encore... « Merci, mais je n'y suis pour rien. » Pourquoi est-il si difficile de réagir positivement à la gentillesse? Les compliments sont parfois difficiles à accepter parce qu'ils révèlent une ambivalence entre notre désir d'être vu et notre malaise de l'être, explique la psychologue Sylvie Gay. Le jugement qu'on a de soi et qu'on souhaite être influence aussi notre façon de recevoir les compliments. On peut juger être une excellente cuisinière, mais n'accorder aucune valeur à ce talent, ou désirer être une bonne chanteuse, mais penser qu'on ne l'est pas. Dans les deux cas, le compliment manque sa cible. Un mot gentil peut également nous faire vivre une intensité émotive avec laquelle on n'est pas habitué de composer, ce qui provoque parfois une réaction inadéquate. Chez certaines, la flatterie peut provoquer un stress de performance ou être perçu comme une manipulation vivant à obtenir quelque chose en retour, précise Sylvie Boucher, également psychologue. Le mieux, c'est d'accepter le compliment avec gentillesse, humilité et grâce, en disant simplement merci, recommande Sylvie Boucher. Quelques trucs pour y arriver ? Prendre une grande respiration avant de répondre ou rebondir sur le compliment en enchaînant avec une question. Eh bien, Kiosque Magazine est déjà terminé. Merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Merci également à Kamal Salifou pour sa mise en onde et ses choix musicaux. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aller sur notre site canalm.org ou nous laisser un message au 1-800-361-0635, poste 220. Je vous souhaite une très belle journée avec une magnifique température, incroyable même. Et nous, on se retrouve mercredi prochain.